morning edition from NPR News.
Let's see, he's on in the house.
Hey, I'm ready to go to Paris.
But we'll get to the radio.
France Inter. Le 18.
Notre invité dans un instant est iranien, il est cinéaste, il est multiprimé, notamment tout récemment récompensé en 2020 d'un ours d'or pour son film Le diable n'existe pas. Il s'appelle Mohamed Rasoulof, il a interdiction de quitter son pays, mais il sait le raconter dans un film scotchant sur la peine de mort. C'est un film inter et il est avec nous dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est à Palma où le volcan est en éruption depuis maintenant 75 jours. Les habitants de l'île sont épuisés, vous allez les entendre. Le bruit du monde de la suite, sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé un rocher espion en Russie, un McDo qui veut s'installer près des thermes romaines en Italie et une académie qui forme des femmes DJ, c'est en Tunisie. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Boin, non, l'Europe ne peut pas imposer la vaccination obligatoire en Europe, comme ça c'est clair. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et les amis embarrassants du golf pour Emmanuel Macron. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Mohamed Rasoulof.
Bonsoir.
À distance, puisque vous êtes chez vous en Iran, pays que vous n'avez pas le droit de quitter depuis longtemps, parce que vous faites des films. Le diable n'existe pas, sort enfin chez nous en salle en France, après avoir remporté en 2020 l'année dernière l'ours d'or du Festival de Berlin. Vos distributeurs sagement ont attendu la réouverture des salles. Votre film, ce sont quatre courts-métrages en fait, quatre histoires de peine de mort, où vous avez voulu vous placer dans la peau non pas du condamné, mais de celui qui retire la chaise. Comme vous le dites, c'est le bourreau. Chaque bourreau est un homme ordinaire, devant la responsabilité de ses actes. Et devant cette question, au fond, jusqu'où suis-je prêt à me renier puisque c'est la loi? Et chacun de vos personnages, Mohamed Rasoulof, répond à sa manière.
Je pense que dans un contexte totalitaire, quand une société est régie par un gouvernement qui rend le peuple complice de ses propres crimes, nous sommes dans un système où les intérêts des individus entrent en contradiction. C'est le mode de fonctionnement par excellence d'un système totalitaire, de sortir les individus d'une unité et d'une cohérence dans leur propre comportement. Ils se retrouvent pour pouvoir survivre dans une situation où ils se sentent dépossédés de leur propre sens de responsabilité. Ils deviennent victimes entre les mains de ce système dictatorial. Dans les quatre histoires que je raconte, j'ai cherché à atteindre une image globale qui, à travers quatre facettes différentes de cet enjeu, à travers les personnages. Mais la dimension la plus importante pour moi dans ces quatre histoires est celle de l'acceptation de la responsabilité individuelle et le rôle de chaque individu dans cette machine d'oppression mise en place par le pouvoir. Tout cela semble se mettre en place très simplement, finalement, parce que les individus ne remettent plus en question ce qu'ils font, ils n'y réfléchissent plus. Ce n'est plus présenté comme un choix, mais comme un devoir. Et donc, cette responsabilité, ils ne la prennent pas personnellement, mais ils la remettent entre les mains du pouvoir en place.
Et particulièrement le premier de vos personnages dans le premier court-métrage, sans raconter la chute, surtout pas, qui choisit de compartimenter intégralement. Je ne veux pas savoir la conséquence de ce que je fais. Au fond, c'est ce qu'il nous dit. Je le fais mécaniquement. C'est un travail. Est-ce que quand même, est-ce que vous diriez que c'est une forme de renoncement ou est-ce que dans un pays totalitaire comme le vôtre, c'est aussi une forme de résistance puisqu'il faut bien sauver sa peau?
Tout l'enjeu est là. Les désirs populaire dans un système totalitaire opte pour la survie. La question de la qualité de la vie ne se pose plus parce que la situation est tellement difficile. Le contrôle, l'intervention des instances de pouvoir sont tellement omniprésentes que les gens ont l'impression que leurs moindres faits et gestes sont dans le viseur. Et c'est cette banalisation qui est très importante. Les gens finissent par s'habituer à cette situation, par y trouver un certain confort. Et cette banalisation change tout. C'est là où la collaboration entre les citoyens et le pouvoir s'établit de façon automatique.
Ta force, c'est de dire non, dit l'un des personnages dans le deuxième court-métrage, et l'autre lui répond « Oui, mais dire non, c'est détruire ma vie, parce que refuser, effectivement, c'est renoncer à sa liberté. Les risques sont évidemment énormes. C'est aussi un choix, au fond, que vous avez fait, vous, Mohamed Rasoulof. Et je lisais une de vos interviews avant de commencer cette émission, et vous disiez, vous, que au fond, ça vous étonne, à chaque fois qu'on vous dit « Vous auriez pu, vous, faire un autre choix, vous auriez pu partir. » Pourquoi ça vous étonne tant quand on vous pose cette question à vous, qui êtes obligé de faire des choix qui impliquent la fin de votre liberté ?
C'est mon questionnement principal dans cette histoire-là, en l'occurrence pour le deuxième film, sur pourquoi est-ce que je me retrouve admonesté, pourquoi est-ce que je dois justifier le fait que j'ai besoin de vivre proche de mes racines culturelles, par exemple choisir l'exil. Mais pour moi, le changement s'initie précisément dans ce choix-là. C'est mon droit de vivre ici, dans mon pays. Pour moi, ce n'est pas un acte de résistance. C'est une nécessité personnelle, invétérée. Donc, je cherche à rester dans mon pays. Et pour faire mon travail, qui est de faire mes films, je n'attends pas l'approbation d'un système de contrôle. Et je suis très heureux de vivre à une époque où la technologie me donne la possibilité de travailler avec des petites caméras, avec des moyens beaucoup plus accessibles et de poursuivre mon chemin.
C'est pour ça d'ailleurs, vous l'avez expliqué, que vous avez tourné quatre courts-métrages qui se mettent bout à bout. C'est plus facile de contourner le système en faisant quatre courts-métrages plutôt qu'un film en entier.
En effet, pour faire un long métrage en Iran, il y a un système de contrôle extrêmement plus sévère. Toutes les démarches à faire sont beaucoup plus figées, professionnalisées. Pour des films courts, le système est plus simple. Il est aussi professionnel, mais il repose moins sur des enjeux financiers, notamment. Donc, j'ai pu trouver des collaborateurs qui avaient avec moi une vision commune, un objectif commun, et nous n'avions pas seulement le cinéma en commun, mais une vision commune du rôle du cinéma. Le cinéma est aussi là pour refléter certains aspects de notre vie. Et c'est auprès des personnes qui travaillent davantage dans les courts-métrages que j'ai pu aussi trouver toutes les possibilités administratives, des démarches qui nous permettent d'organiser des tournages. Et donc, sur toutes ces démarches officielles, mon nom ne figurait pas. J'étais toujours en recul officiellement sur les projets et pourtant, j'étais présent sur le plateau. Mais s'il y avait un contrôle, si on venait nous voir sur le tournage, il suffisait que je m'éclipse.
Et est-ce que vous avez le sentiment de pousser à chaque fois le plus loin possible dans vos films précédents qui vous ont déjà valu donc une interdiction de voyager, qui vous ont valu aussi de la prison? Vous êtes peut-être, j'allais dire un peu plus métaphorique, je pense que le terme est pas bon, en tout cas peut-être un peu moins frontal. Là on est sur la peine de mort, le sujet même est intégralement tabou en Iran. Est-ce qu'au fond vous vous dites, je tirerai sur cette corde tant que je le pourrai, je forcerai à cette réflexion dans mon pays tant que je le pourrai, et chaque jour peut-être un peu plus, et donc en prenant plus de risques?
Quand j'ai commencé à faire des films, j'étais sous l'influence de la littérature iranienne. Et en effet, les histoires que je voulais les raconter, je les faisais avec une esthétique qui était celle de la métaphore, de la parabole. Mais petit à petit, j'ai changé moi-même d'attitude. Et quand je me suis retrouvée en prison, je me suis demandé quel était le sens de ces métaphores. Cette esthétique artistique avait ses propres limites, ou en tout cas, dans un système totalitaire, on ne peut pas en avoir la même lecture. Quand vous restez métaphorique dans un système oppressif, vous vous soumettez de fait à l'oppression. Dans ce contexte-là, la métaphore peut être une résignation face à l'injustice. Ça peut être le langage de cette résignation. Et donc, ça a été pour moi un choix extrêmement conscient, assumé. Si je veux m'exprimer contre l'injustice, je ne peux pas adopter le langage de son acceptation. Et j'ai choisi un langage plus frontal, moins ambigu, plus explicite. Je suis sorti de ce carcan esthétique qui était le fruit de la souffrance du peuple iranien pendant des siècles. C'est devenu une langue de la plainte. Et j'ai voulu me déplacer mon langage de la plainte vers la protestation, assumer la protestation. Et tant que j'en aurai la possibilité, la force, j'essaierai de continuer d'exprimer mes besoins à travers une expression artistique et les besoins que je perçois autour de moi, ce qui ne veut pas dire que demain je ne ferai pas d'autres films, que je n'aurai pas recours à d'autres langages cinématographiques. Mais aujourd'hui, mon premier besoin est celui de refléter les réalités que j'observe autour de moi. Et le plus important, ce sont les crimes que le régime impose au peuple iranien.
Vous avez raconté, Mohamed Rasoulov, dans une interview précédente, que pendant le tournage, un policier vous a reconnu. Et vous avez échangé un regard, il vous a fait signe et il vous a dit « je t'ai reconnu », enfin tout ça sans se parler, « je vous ai reconnu mais je ne dirai rien ». Et au fond, est-ce que vous ne diriez pas que toute l'ambivalence de l'Iran est dans cette scène-là, l'obéissance à la loi, comme vous le disiez, et en même temps, chacun à sa manière, la contournant, y compris de la part de ce personnage qui aurait pu vous envoyer directement en prison?
C'est quelque chose de constant dans ma vie. Je rencontre des personnes qui semblent être au service du système, voire du système de censure, mais en privé, viennent me féliciter et me demandent de poursuivre et d'aller plus loin dans ce que je fais. c'est la preuve que ce système est usé, qu'il comporte en son sein des personnes qui attendent la moindre occasion pour sortir de cette posture dans laquelle ils sont par une certaine résignation. Je pense que si un jour les circonstances se réunissent pour que les gens puissent s'exprimer librement, nombre de personnes qui sont les membres de ce système, les salariés de ce système, seront les premiers à se soulever et à s'exprimer librement. Mais aujourd'hui, l'intimidation exercée de façon constante par le régime les maintient dans le silence. Mais je dois dire que les Iraniens, dans leur grande majorité, sont plus que là, sont désespérés par ce régime, mais ils n'ont pas encore le courage. Ils ont encore trop peur pour l'exprimer.
Ils l'ont eu ce courage, ils l'ont eu en 2017, ils l'ont eu en 2019, ça a été des manifestations qui ont été très sévèrement réprimées. Ça veut dire, vous diriez-vous qu'il y aura forcément une prochaine fois et que cette prochaine fois-là sera la bonne ?
Prévoir les événements politiques en Iran est une chose très difficile. Le gouvernement iranien est la combinaison entre deux prétentions complètement fallacieuses. Elle prétend être à la fois une république et être islamique. Et je pense que cette appellation fallacieuse de République islamique montre dès sa formulation à quel point ce régime est faux, ce régime est aberrant. Il y a de prétendues élections dans ce pays. Or, on ne peut rien élire, on ne peut rien choisir autre que ce que l'établissement politique vous impose. Il n'y a aucun choix. Vous pouvez choisir que ce qu'ils ont déjà approuvé de leur côté. L'ignorance est imposée au peuple iranien. Et heureusement, les réseaux sociaux, le lien que la technologie a permis entre le peuple iranien et l'extérieur a éveillé les consciences. Donc, je ne peux pas faire de prévision. La force et la répression exercée par la République islamique ne peut pas avoir une vie très longue, mais je pense que le jour où le peuple iranien combattra pour obtenir la démocratie ne peut plus être très loin.
Une toute dernière question pour vous, Mohamed Rasoulov, et vous, en fait. Est-ce que vous avez ça en tête, y compris le risque de retourner en prison, ou est-ce que quand on est dans la situation qui est la vôtre, on se dit, oui, ça peut arriver à n'importe quel moment, ça fait aussi partie des choses, c'est comme ça, et pour avancer, je n'y pense pas.
J'attends constamment que cette sentence soit appliquée. J'y pense tous les jours. Mais ce qui me permet de continuer, c'est de ne pas voir la prison comme un châtiment exercé par le régime contre ma façon d'être ou de penser. Je me dis que cette contrainte-là aussi, je peux la transformer en une opportunité. Je pense que j'ai cette faculté en moi de rester créatif, même dans le huis clos de la prison. Donc, je préfère ne pas voir le côté sombre et regarder plutôt la lumière. Et le jour où on m'en privera, je mettrai en œuvre toute ma force, toute ma créativité pour combattre ces ténèbres et les supporter.
Merci beaucoup, Mohamed Rassoulop. Merci vraiment de votre passage chez nous dans Un jour dans le monde. Ça s'appelle Le diable n'existe pas. 4 courts-métrages bout à bout qui sont scotchants et qu'on vous conseille très fortement d'aller voir. La traduction était assurée par Massoumé Laïdji. Merci beaucoup à vous, Massoumé également.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Et la suite ce soir, c'est le bruit du monde, c'est le bruit incessant depuis 75 jours du volcan qui ravage les îles Palma. 1000 tremblements de terre ces 3 derniers jours et des habitants épuisés que vous allez entendre. Et pour aller jusqu'à 19h, le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars. Et vous, Sébastien Logénie.
Nous irons en Russie qui teste de nouveaux dispositifs d'espionnage.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, Angélique Boin, bonsoir.
Bonsoir. La Commission européenne va-t-elle rendre la vaccination obligatoire partout en Europe? Eh bien non, Fabienne, tout simplement parce qu'elle n'en a pas le pouvoir.
Le monde d'après, tout à l'heure Angélique, le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous, Emmanuel Macron part pour le Golfe Persique où des Émirats au Qatar en passant par l'Arabie Saoudite l'y attendent des amis encombrants.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Brésil avec ce qu'il a de meilleur, Astro Gilberto, Aqua de Bebel.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Te batunda, patela da badaba, te batunda, patela da badaba, te batunda. Água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Timba tunda, patela da badaba, timba tunda, patela da badaba, timba tunda.
Le bruit du monde, ce soir, est dans l'île de La Palma, aux Canaries, et vous allez entendre des habitants épuisés. Le volcan de la Cumbre Vieja, qui est à sa 11e semaine d'éruption, 75 jours, 1000 tremblements de terre ces 3 derniers jours, ce volcan commence réellement à épuiser, à éreinter les habitants. Chaque accalmie très courte, avant de nouvelles bouches de feu, un jaillissement de partout. L'une d'elles, par exemple, s'est ouverte récemment au pied d'une maison qui, heureusement, était vide. Et la lave qui progresse maintenant par le nord-est menace d'autres quartiers. La vie est devenue impossible. Et le reste, c'est Philippe Modol qui raconte.
Así suena el volcán Palmero.
Tous les soirs, à la même heure, c'est la même litanie. Le présentateur de la télé canarienne fait du volcan un héros de série, en lançant des drones à sa poursuite, et tout ça depuis un studio dernier cri. Pourtant, les rugissements, les tremblements de terre, les gaz, les cendres ne font pas l'unanimité chez les Palmeros, les habitants de La Palma. Sur les toits, dans les rues, tous les matins, la même corvée. En fonction du vent, à Santa Cruz, la capitale, ou à Los Llanos, de l'autre côté, celui du volcan. À peine 8 heures et Nestor est déjà en sueur, souffleuse à la main, poubelle au pied.
On peut voir ici la quantité considérable de matière expulsée par le volcan. Tous les jours, on a plus ou moins une rue comme ça. Trop, c'est trop. Tous les jours, il y a beaucoup de cendres à ramasser. La poussière, les gaz du volcan, le soufre, tout ça. C'est de plus en plus dur, même si on ne le croit pas.
10 millions de mètres cubes de cendres. le volcan de la Cumbre Vieja a rejeté pas moins de 10 millions de mètres cubes. Wardy en sait quelque chose, elle qui balaie matin et soir devant sa boutique. Elle n'est pas la plus mal lotie, mais...
J'ai des amis qui ont tout perdu. Leur maison, leur terrain, leur façon de vivre. C'est vrai, il y en a plein qui ont été évacués de leur domicile sans savoir quand ils pourront y revenir. L'incertitude, c'est l'une des choses les pires. Rester dans l'expectative de voir par où passe la lave chaque jour, si elle progresse davantage en direction de notre maison ou pas, tout ça c'est très dur. Donc perdre sa maison, même si j'ai toujours dit que ce n'était pas que quatre murs, la maison c'est le foyer, mais c'est le foyer qui l'a fait, où qu'elle soit. Et maintenant qu'arrive Noël, je voudrais que tout le monde, celui qui est chez lui, celui qui est dehors, vive cette période. Parce qu'on a tous des moments de cafard et qu'il faut prendre la vie comme elle vient.
Quand bien même la vie reprendrait, le volcan, lui, reprendrait du poil de la bête. Sur un banc de l'Océanus, Esther ne se console pas des rebonds du monstre à 3 km de là. Todoke et maintenant la Laguna.
Notre maison est atteinte par la lave. La lave est dedans, elle est passée entre les murs, à l'intérieur de la chambre. Sur le terrain, elle a aussi pénétré. Je ne l'ai pas vue, juste à travers des photos. Je n'ai pas envie de voir ça.
Vous avez pu revenir sur la place de l'église ?
Non, je ne veux pas. Vraiment, je ne veux pas. D'ailleurs, je crois que la place est ensevelie, non ?
Bon, le bar et la boutique sont couverts de lave.
Couverts de lave ?
La rue, non.
Mais je ne veux pas y aller. Je ne suis pas préparée pour l'instant. Non, je suis née là et j'ai vécu là toute ma vie. Et je ne suis pas encore prête pour voir ça. C'est triste. Nous nous retrouvons entre voisins, nous parlons, nous nous embrassons et nous pleurons. C'est terrible. C'est terrible quand on te dit que tu dois partir. Et tu dois partir. Partir parce que tu cours déjà le danger. Tu n'as qu'à partir et chercher où vivre.
Sur le quai en partance pour Tenerife, quelques 4x4 se faufilent encore entre les camions. J'ai rencontré Loli dans sa voiture, remplie à craquer. Et je lui ai demandé ce qu'elle faisait à attendre le ferry.
Rien. Nous allons à Tenerife, où nous avons un fils. 2-3 jours. Parce que nous étions 2 mois dans une petite caravane sur le parking du terrain de foot à Tirarafe.
Vous avez été évacué ?
Oui, de la Laguna. Nous allons à Tenerife.
Mais vous ne comptez pas fuir La Palma ?
Non, je reste sur mon île.
Pourquoi ?
Parce que c'est mon île, c'est notre terre, et nous devons surtout la tirer de là.
Où était, où est votre maison ?
À la Laguna. Pour l'instant, elle continue à être debout.
Vous emportez donc des affaires ?
À Tenerife, chez un fils que nous avons là-bas, nous allons passer une petite semaine avec lui.
Pour changer les idées ?
Oui, nous éclaircir un peu les idées et revenir sur notre terre.
Par chance, le volcan s'arrêtera peut-être ?
Oui, bien sûr. Que Dieu le veuille. Et qu'on aille de l'avant, en continuant à lutter. C'est ce qu'il faut.
Et rendre grâce à Dieu. Il y a pire que nous. Des personnes âgées, des familles avec des enfants.
Pudique Loli et Juan. Peut-être s'en vont-ils pour de bon ? Et alors ? La Palma a toujours été une terre d'émigration. Les Palmeros, s'ils partent, reviennent.
Philippe Modol pour le reportage. Merci beaucoup, Philippe. Le bruit du monde. La suite, c'est toute l'actualité internationale passée sous les radars, dénichée par Sébastien Lougeni. Et Sébastien, nous sommes à Voronezh, c'est dans l'ouest de la Russie, où l'académie militaire vient de mettre au point un nouveau système d'espionnage.
Tout est parti d'une vidéo de la télévision du ministère russe de la Défense. On y voit un soldat déposer au sol ce qui ressemble de loin à une grosse pierre grise. Et en quelques secondes plus tard, eh bien la pierre se met à bouger, à rouler, pour être précis, une Rolling Stone, Fabienne, mais qui est en fait une Spy Stone, une pierre espionne, avec en dessous de petits trous comme une chenille, et au-dessus, un périscope discret et au bout, une petite caméra vidéo capable de tout filmer. Un dispositif mis au point par les élèves de l'Académie de l'Armée de l'Air.
On entend là l'un des élèves à l'origine de cette invention et l'invention derrière, la pierre espionne, qui peut être commandée à près de 2 km de distance et filmée pendant 24 heures de façon autonome. Alors à quoi va servir ce drôle d'engin? La télé russe parle d'un usage en cas de guerre de tranchées pour permettre aux tireurs d'élite notamment d'inspecter le terrain à distance. La presse britannique rappelle de son côté que Moscou s'est, semble-t-il, inspiré d'un autre dispositif anglais, celui-là, il y a 15 ans. Un faux rocher installé par le MI6 dans un parc de Moscou avait permis d'espionner en toute tranquillité la capitale russe.
McDo fait pression pour s'installer à deux pas du Colisée à Rome.
McDonald's souhaite en effet depuis des années créer un McDrive avec vue sur les thermes romains de Caracalla, site mondialement connu, vieux de 1800 ans. Proposition d'abord validée par la région avant d'être retoquée par le ministère de la Culture et par la maire de Rome. Mais McDo n'a pas baissé les bras, saisi la justice au point que l'affaire finira dans moins de 3 semaines devant le Conseil d'État transalpin. Il faut dire que les relations entre le géant américain du burger et l'Italie ont toujours été compliquées. En 2017, déjà, un autre fast-food faisait scandale, ouvert à 100 mètres à peine du Vatican avec l'aval de la papauté. C'est un patron de restaurant qu'on entend là. Ce qui m'émerveille le plus, disait-il il y a 4 ans, c'est que le pape s'élève contre les multinationales mais qu'il a ensuite loué un local du Vatican. Voilà l'Italie, l'Italie du slow food qui résiste au fast-food. Le pays compte 9 McDo pour 1 million d'habitants contre 22 en France et 44 aux États-Unis.
On termine en Tunisie, Sébastien, avec la première DJ Academy pour femmes.
C'est une première dans le monde arabe, formée de jeunes femmes au DJing, mixées pour faire chauffer les dance floors, une activité très majoritairement masculine et encore plus dans les pays arabes. Cette DJ Academy for Girls de Tunis brise donc tous les tabous, comme le dit cette jeune DJette.
Être une femme DJ en Tunisie, ça fait peur car tu vas rentrer la nuit tard, c'est plutôt un truc masculin. Toutes les familles, ils ont peur d'avoir leurs filles dans les boîtes de nuit, dans les événements. Puisque je fais la chose que j'aime, ils m'encouragent.
Voilà, la DJ Academy forme ses femmes, mais elle fait aussi du social pour leur redonner confiance dans une société encore très patriarcale. On y apprend les rythmes, les boucles, le bon son, mais aussi on parle sexualité et féminisme.
Merci beaucoup Sébastien Eugénie. Et puisque vous avez le sens du rythme, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me lire ça?
À la Vrostichiotis.
Eh ben voilà, c'est le titre de la chanson du Chypriote Monsieur Domani qu'on écoute maintenant. Merci beaucoup Sébastien. Monsieur Doumani, à la Vrostichiotis, c'est le titre et c'est sur France Inter. Restons en Europe pour retrouver Angélique Bois.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Angélique, on va remettre un petit peu les choses en place ensemble ce soir avec une question simple. Bruxelles peut-elle rendre la vaccination obligatoire en Europe?
Oui, c'est une question qui a agité quelque peu les réseaux sociaux avec une évidente mauvaise foi de la part de ceux qui n'ont retenu qu'une partie de l'intervention hier d'Ursula von der Leyen. Lors d'un point de presse, la présidente de la Commission a clairement réitéré ses appels à la vaccination, mais à aucun moment elle n'a dit ni même suggéré qu'elle allait la rendre obligatoire. Je vous propose, Fabienne, d'écouter la question qui lui a été posée et sa réponse, telle d'ailleurs que France Inter l'a diffusée.
Hier, le gouvernement grec a décidé d'imposer une amende de 100 euros à toutes les personnes de plus de 60 ans qui ne veulent pas se faire vacciner. Quelle est votre position sur l'obligation du vaccin contre le Covid?
En premier lieu, je rappelle que cela relève de la souveraineté nationale. Je n'ai donc pas de recommandation à faire. Ensuite, si vous me demandez mon avis personnel, nous avons des vaccins, ils peuvent sauver des vies. Il est donc légitime et compréhensible d'avoir ce débat entre nous sur la vaccination obligatoire. C'est en effet un débat dont on ne pourra pas faire l'économie.
Et voilà, beaucoup n'ont retenu que la dernière partie. C'est un point de vue personnel, dit-elle, et un débat auquel on n'échappera pas. On notera d'ailleurs que certains États, la Grèce, l'Autriche, l'Allemagne, n'ont pas attendu sa position pour le mettre en place ou bien l'envisager.
Donc ça se passe dans les capitales, ça ne peut pas venir de Bruxelles, Angélique.
Absolument pas, une telle obligation ne peut pas être imposée par la Commission, tout simplement, Fabienne, parce que c'est hors de son champ de compétences. Ce qui pourrait, en revanche, se passer, c'est que lors du prochain sommet, prévu par exemple dans deux semaines, les 27 chefs d'État et de gouvernement en discutent, ils pourraient, même si personne n'y croit, le décider collectivement, puis l'appliquer dans leur pays, ou pas d'ailleurs, on a déjà vu des décisions prises à 27 qui ne le sont pas. Donc si demain, Fabienne, on vous imposait à vous ou à l'un de vos auditeurs, un vaccin, eh bien, soyons clairs, ce serait une décision du gouvernement français.
Et alors, Angélique, Ursula von der Leyen, qui ne peut rien imposer donc, mais qui pousse, vous l'avez dit, à se faire vacciner.
Ah oui, là-dessus, elle assume. Elle dit que c'est une course contre la montre, qu'avec la forte résurgence du variant Delta, l'apparition d'Omicron, il faut le faire. Elle brandit même des chiffres. 68% des Européens sont vaccinés. Cela fait 150 millions qui ne le sont pas. Elle invite les États à renforcer leur campagne de vaccination, à déployer partout les troisièmes doses. Elle a aussi rappelé que les labos avec lesquels la Commission, vous le savez, a signé des contrats, sont prêts à développer, si nécessaire, un nouveau vaccin en 100 jours pour faire face à Omicron.
Alors voilà ce qu'elle a annoncé, mais elle a été interpellée aussi sur la coordination entre États membres. Certains commencent encore à prendre des mesures dans leur coin, et comme souvent, Angélique d'ailleurs, depuis le début de cette crise.
Oui, elle ne le nie pas, mais là encore, elle ne peut que coordonner, pas imposer. Reste, et elle l'a expliqué hier, qu'avec l'expérience des deux années de pandémie, les 27 sont quand même beaucoup plus réactifs et coordonnés qu'avant. L'IPCR, la cellule de crise interinstitutionnelle qui sert à se parler à 27 sur le Covid, est en alerte permanente ici depuis 21 mois, Fabienne. Mm-hmm. Ça signifie par exemple que lorsque l'OMS a alerté sur Omicron, eh bien le jour même, tard dans la nuit, des représentants des 27 se sont réunis pour échanger des informations, pour tenter de se coordonner. Tout cela n'est pas parfait, on le voit bien, mais on se parle ici régulièrement entre pays membres, avec la Commission et les agences de santé.
Et par ailleurs, et rapidement, von der Leyen a aussi admis une nouvelle fois qu'il faut que le reste du monde se vaccine, Angélique, sinon on s'en sortira jamais.
Ah oui, des chiffres parlants, 1 milliard de doses de vaccins ont été distribuées dans l'UE et on en a promis 300 millions pour les pays qui n'en ont pas qui n'ont pas les moyens d'en acheter d'ici fin 2021. Elles ne seront pas tous livrés. Alors l'Europe n'a pas à rougir par rapport au reste du monde. Mais comme vous le voyez, la vaccination partout, c'est pas pour demain.
Allez, Angélique Boin à Bruxelles, comme chaque jeudi dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
Fabienne Saint-Hès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, Emmanuel Macron entame donc ce soir un déplacement de 48 heures. Il va rencontrer successivement les trois leaders
du
Golfe Persique. Voilà, le leader des Émirats Arabes, celui l'émir du Qatar et aussi le prince héritier d'Arabie Saoudite. Autant de partenaires diplomatiques essentiels pour Paris dans la région, mais ce sont des alliés très embarrassants. Question droits de l'homme notamment, et c'est votre monde d'après.
Une poignée de main qui fait mal au ventre, c'est peut-être l'image qui va rester des prochaines 48 heures lors de la troisième et dernière étape de ce déplacement. Le président français sera accueilli à Jeddah, en Arabie Saoudite, accueilli à l'aéroport après-demain à 10h du matin, heure de Paris, par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, MBS, qui ensuite l'invitera à déjeuner. Oui, on parle bien là de MBS, l'homme dont la CIA considère qu'il est le commanditaire du sauvage assassinat du journaliste et opposant Jamal Khashoggi, il y a 3 ans à Istanbul. Khashoggi, dont le corps a été découpé à la tronçonneuse par les hommes de main du régime saoudien. MBS, l'homme dont l'ONU a préconisé qu'il soit soit placé sous sanctions internationales. L'homme qui réprime l'opposition dans son pays, l'homme qui a du sang sur les mains, l'homme aussi qui, depuis 3 ans, a de facto été mis au ban par les Occidentaux. L'Américain Joe Biden refuse toujours de lui parler et n'échange qu'avec son père, le vieillissant roi Salman. En lui serrant la main après-demain, Emmanuel Macron va devenir le premier dirigeant occidental d'importance à briser la mise à l'écart, à réhabiliter en quelque sorte MBS. Les associations de défense des droits de l'homme sont consternées.
Enfin, ce sera que la troisième étape de ce déplacement, parce qu'il y en a 2 autres.
Oui, absolument, mais c'est pas tellement mieux. La deuxième étape, ce sera le Qatar. Dîner demain soir avec l'émir, le cher Al Thani, à 1 an de la Coupe du Monde de football. Difficile d'ignorer quand même la controverse sur les conditions d'attribution de la compétition et surtout les accusations de dissimulation de morts d'ouvriers migrants sur les chantiers de construction des stades. Reste la première étape dès ce soir, tard. Première étape et troisième larron, le cher Mohamed Ben Zayed, MBZ, d'Abu Dhabi, leader politique de fait des 7 Émirats Arabes Unis et de leurs 10 millions d'habitants. Ce troisième larron, c'est sans doute le moins médiatisé du lot, mais pas le moins autoritaire. Les Émirats répriment eux aussi les opposants. Ils utilisent le logiciel Pegasus pour surveiller journalistes et dirigeants étrangers. Ils sont soupçonnés de crimes de guerre au Yémen. Et ils viennent de placer à la tête d'Interpol un général visé en France par plusieurs plaintes pour torture, notamment à l'encontre du militant des droits de l'homme Ahmed Mansour. Bref, MBZ n'est pas lui non plus un parangon. Voilà, un parangon de vertu, voilà encore une poignée de main et ça sera pour le déjeuner demain midi, hein, qui sera elle aussi lourde de symboles.
Et en même temps, Jean-Marc, c'est un classique, hein, d'avaler des couleuvres quand il y a d'autres intérêts en jeu.
Oui, on va pas faire les naïfs, hein. Le plus évident de ces intérêts, celui qui saute aux yeux, c'est de faire des affaires, business is business. Pour ce déplacement, Emmanuel Macron sera accompagné non seulement du ministre des Affaires étrangères, mais également de ses homologues des armées, de l'économie, du commerce extérieur et aussi des patrons, notamment de Thalès ou de Safran. Vous avez compris, gros contrat attendu, en particulier la vente de Rafale aux Émirats, au moins une trentaine, peut-être plus après le Qatar. Voilà donc les Émirats qui achètent l'avion de Dassault. Mais il y a peut-être plus important encore, c'est un vaste calcul géopolitique. La diplomatie française est en train d'opérer un changement de logiciel, une mise à jour sur le Proche et le Moyen-Orient. Voilà ce que nous confiait un haut diplomate français il y a quelques jours. Les pays du Golfe, les Émirats en particulier, sont devenus l'endroit où ça se passe dans la région, la plaque tournante diplomatique. Il faut que Paris se fasse à cette idée. Le Qatar fait l'interface avec l'Iran et l'Afghanistan. Les Émirats sont le symbole de la normalisation arabe avec Israël et ils sont une porte d'entrée pour parler indirectement au Syrien Assad. L'Arabie Saoudite possède les clés financières et politiques d'une amélioration de la situation au Liban, un sujet cher à Paris. Bref, le monde a changé dans cette partie du monde. Paris prend acte de cette nouvelle donne où les pays du Golfe sont plus importants que les anciennes puissances égyptiennes ou syriennes ou que l'ancien lieu de rencontre général du Liban. Paris prend acte. Mais la facture est quand même salée.
Allez, le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs, dans Jour dans le Monde. Merci beaucoup pour nous. Ça continue le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Filly. Et puis juste après, le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.